CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Oui, allô?
Ouais, Vince? Je t'ai encore pris.
Ah, t'es pas encore dans le fossé. Sérieux? T'es vraiment...
CFAQ, l'essence de la radio.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette cinquième émission de Dans le fossé. Le concept est simple. À chaque semaine, on prend un sujet qui divise la société et on se jette directement dans le fossé. Aujourd'hui, sur l'autoroute des idées, on aborde notre vision du Québec dans un futur prochain ainsi que notre perception de la souveraineté en 2020. Dans le fond, avant de commencer dans le vif du sujet, on aimerait, dans le fond, souhaiter nos plus grandes condoléances à la famille des victimes de l'attentat, entre guillemets, de Québec, de l'Halloween dernier, de cet Halloween. On ne pouvait pas passer sous silence cet événement qui vient de passer avec l'émission d'aujourd'hui. Sinon aussi, en termes d'actualité, aujourd'hui, c'est les élections américaines. Le monde entier retient son souffle à savoir les résultats de ce soir. Est-ce que Donald Trump va être élu? Est-ce que c'est Joe Biden? Est-ce que le vote va se faire par la poste? Est-ce que... Plusieurs questions, pas beaucoup de réponses et les résultats sont à voir ce soir. Alors, le sujet d'aujourd'hui, le Québec. Le 30 octobre dernier, on célébrait le 25e anniversaire du référendum de 1995 qui s'est soldé par une victoire non légitime, je voulais le dire, du non avec 56,6% des voix. Le oui avait alors été défait à 49,4%. Un souvenir douloureux pour certains, un soupir de soulagement pour d'autres, l'enjeu de la souveraineté reste dans le discours populaire depuis toutes ces années. Moi et Vincent fait partie d'une génération qui n'a pas vraiment connu la montée du souverainisme, même si Vincent est né avant le fameux 1995. Mais on en parle et on gère un peu cet enjeu-là comme si on l'avait toujours vécu. Je te lance tout de suite, Vincent. Est-ce que tu as déjà eu cette discussion-là avec tes parents?
La question du souverainisme, l'indépendance du Québec, ouais, j'en ai parlé beaucoup avec mon père. Mon père est souverainiste à l'os là, depuis toujours. Je pense que son père aussi l'est. Sa mère, ma grand-mère, un peu moins. J'ai expliqué peut-être un peu plus tard là, pour dans le fond, les raisons peut-être pour lesquelles je présume que ça a peut-être un peu moins marché la première fois, puis que ça a fonctionné un peu plus la deuxième. Toi, t'as le regard sur l'arrière-scène, puis ce qui s'est fait au niveau fédéral pour bloquer le tout. Mais ouais, j'en ai parlé aussi avec ma mère. Ma mère a toujours été un peu secrète là-dessus. Là. Je connais pas tellement, j'ai jamais su pour qui elle votait. Mon père, c'était un PQ. Je me suis jamais vraiment posé la question, puis mon père à chaque année, je pense que c'était un espèce de vote aveugle, puis... Je m'excuse, papa, si tu vas écouter cet épisode-là, mais,
non, mais
je pense que le message puis l'idée de la souveraineté est incarnée maintenant par plus qu'un parti. Tu sais, on a le nouveau parti qui est, bon, ben nouveau. Pas tellement, là, mais Québec solidaire qui prône la souveraineté, puis je dirais peut-être le prône un peu plus que le PQ ces jours-ci. Mais on verra bien avec le nouveau chef du parti québécois là, qui amène un vent de jeunesse un peu dans tout ça, qui est assez confiant, qui semble présenter des idées fortes puis une position forte par rapport à ça. Je l'ai pas vu il semblait assez solide en entrevue et tout ça. Fait qu'on verra bien s'il va réussir à réunir les Québécois autour de la question de la souveraineté. Mais ouais, puis toi, Will, tes parents t'en ont parlé ou...
Ben, c'est sûr que j'ai... Parce que veux pas, la perception que toi, t'as de la souveraineté puis de plusieurs enjeux passe par tes parents. T'sais. C'est normal que si t'avais des parents qui étaient un peu plus fédéralistes ou souverainistes, tu dépeins un peu de cette vision-là de tes parents parce que tu vois tes parents, t'y regardes de haut, tu veux faire comme eux. Puis souvent, tu prends leur perception des enjeux sans avoir la tienne. Puis plus tu vieillis, plus t'as des informations, plus tu viens à comprendre certaines choses que tu comprenais pas quand t'étais petit, puis tu viens à forger un peu ta propre idée. Puis moi, c'est un peu ce qui s'est passé. Dans le fond... J'ai déjà eu cette discussion avec mes parents, puis c'est assez drôle parce que je sais que mes deux parents ont voté oui il y a 25 ans. Puis je sais aujourd'hui très bien que, surtout du côté de mon père, je pense que ce serait plus un non catégorique. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans ce bateau-là, d'avoir voté oui avant, d'avoir voté non après, pour plusieurs raisons qu'on va pouvoir aborder dans quelques instants. Mais oui, j'ai déjà parlé souvent avec mon père, Fira, parce que souvent mon père il me relance un peu humoristiquement là-dessus, vu qu'on a des visions assez contraires de l'enjeu. Mm-hmm. Mais ça fait du temps d'avoir des petits débats amicaux sur la question. Mais j'ai quand même réussi à changer un peu ma perception avec mes années d'université. T'sais, avant, j'étais vraiment genre, c'est un peu triste à dire, mais pas triste, correct. Genre, quand j'étais au cégep, surtout là, j'étais bien à droite. J'avais des principes bien conservateurs. Puis comme
carré vert.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais?
Ouais.
Genre, OK, pas moi.
Non, bon, tu vois, j'avais cet enjeu-là parce qu'on dirait que je voyais seulement un côté des enjeux. Mm-hmm. Quand je suis arrivé à mon baccalauréat, il y en a qui vont me dire peut-être que j'étais endoctriné, mais c'est vraiment pas ça. C'est que j'ai appris à analyser certains des enjeux. J'ai appris à me créer ma propre opinion par rapport à certains autres enjeux, notamment la souveraineté. Puis je me suis positionné plus en faveur. Maintenant, tu sais, je peux pas dire que je suis genre un gars bien à gauche aujourd'hui. Je suis juste plus...
Ben, je pense que ton bac aussi, tu sais, veut pas t'étudier en sciences politiques. Puis je pense
rationnel. Non, j'ai dit je suis plus rationnel.
Ah, plus rationnel, ouais, mais je pense aussi, tu sais, quand on arrive à l'université, l'exercice, c'est de se baser sur une étude plus approfondie des choses, tout en étant dans l'idée de... comment dire? D'être objectif. Ouais. D'aller chercher en profondeur dans les choses. Puis je pense que peut-être, probablement, que à travers tes parents, bien, il y avait une espèce de filtre. Puis eux retenaient certains éléments, certains points qui valorisaient plus que d'autres par rapport à la question de la souveraineté. Puis là, tu as été voir, tu as vu c'était quoi l'histoire, tu as vu. Tu sais, probablement, c'est comme ça que je me l'imagine. Depuis que le Canada existait, quand il y avait le bas, il y avait le haut Canada, la question de l'oppression des Canadiens français par les
anglo-saxons.
Non, mais ceux qui prêtaient encore allégeance à la reine.
Les loyalistes,
ouais, c'est ça. Les loyalistes versus plutôt les Canadiens français qui ont eu l'impression, en fait, qu'ils se sont fait assimiler puis imprégner de la culture anglophone. Puis, tu sais, on est parti de là, ça a fait quand même beaucoup de chemin. Puis pendant la guerre, la question de l'implication du Canada dans la Deuxième Guerre mondiale, des gens au Québec qui voulaient plus aller à la défense des Canadiens français. Fait qu'il y a eu, tout ça. Puis j'ai l'impression un peu ce qu'on retient de la question de la souveraineté. On est dans une perspective qui est beaucoup plus récente dans l'histoire. Hein, tu sais, c'est des enjeux. On reconsidère pas nécessairement l'ensemble de tout ça jusqu'à cette époque-là. Est-ce que c'est nécessaire aussi? Je sais pas, là, mais c'est ça, je pense que sciences politiques, tu as été vraiment plus dans les fondements de la question de pourquoi le Québec devrait être souverain, autant pour des raisons identitaires qu'économiques que politiques.
Ben, tu sais, c'est drôle parce que il y a eu un cours à l'Université de Montréal, j'ai pris à la fin de mon bac, qui s'appelait nationalisme. C'est tout. Le professeur était incroyable, elle avait été diplômée de McGill, elle a fait son doctorat sur le nationalisme. La première chose qu'elle nous a dit en rentrant dans le cours, elle nous a dit le nationalisme québécois n'a rien de spécial. C'est la première chose qu'elle a dit dans le cours parce qu'elle nous a prouvé qu'il y a plein d'autres nations qui aspirent à la souveraineté ou qui construisent autour du nationalisme autre que le Québec. T'sais. Puis les exemples, il y en a des milliers, là, que ce soit genre pas juste Canada, il n'y a pas juste la Transylvanie, il n'y a pas juste l'Écosse, il n'y a pas juste la Catalogne, Catalogne. Il n'y a pas juste ces endroits-là. T'sais. Puis le Québec fait partie de ces endroits-là qui aspire peut-être un jour à l'autodétermination. T'sais. Puis avec le 25e anniversaire qui s'est passé la semaine dernière, c'est intéressant de savoir, tu sais, Radio-Canada a fait une série de reportages là-dessus à savoir c'était quoi la perception des jeunes par rapport à ça. Parce que quand on regarde les sondages, c'était un sondage en fait qui est apparu avant le 30e, un sondage commandé par Radio-Canada qui voulait voir était où l'appui à la souveraineté, tu sais, puis il se traîne autour d'une trentaine de pourcents.
Tu sais, dans la tranche d'âge des jeunes? Qu'il y a un appui à 30%?
En fait, 47% des répondants croient que le débat va revenir dans l'actualité.
OK.
Au niveau de. C'est les jeunes.
C'est qui a été sondé? Tu dis que c'est les jeunes?
Ben, en fait, ça a été un sondage assez général. Mais okay. Ils essaient de prendre le pouls de la souveraineté comme ils font à chaque année. Puis, dans le fond, c'est les jeunes qui sentent de moins en moins appelés par cet enjeu-là. Puis, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Tu sais, pourquoi nos parents, il y en a certains qui ont voté oui, puis d'autres qui votent qui. Puis, ces mêmes gens-là voteraient non aujourd'hui, c'est que il y avait une raison avant de le faire, l'indépendance. Il y avait une crise. Qu'on appelle en sciences politiques une fenêtre d'opportunité, il y avait la chance de pouvoir le faire. T'sais. Il y avait un moment qui s'était créé. Il y avait, tu sais, pour accéder à cette indépendance-là, il y avait une crise notamment entre le Québec et le gouvernement fédéral, qui était à l'époque par un fort chrétien. Demain, c'est justement le...
Toi, tu parles du deuxième référendum.
Ouais, ben, je parle de celui-là parce que c'est celui qu'on souligne le plus. C'est celui qui a passé le plus près de concrétiser ce que le PIQ avait, et le Bloc avaient monté pendant plusieurs années.
Mais en même temps, tu sais, le mouvement est quand même né au premier référendum dans les années 60.
Oui, il est né d'une coalition. C'est ça qu'il faut se rappeler, tu sais, quand on regarde le Parti québécois aujourd'hui, c'est un parti qui veut faire l'indépendance, c'est un parti à part entière, mais oui, l'indépendance, c'est leur but numéro un, mais c'est devenu un parti politique. C'est devenu une entité qui avait une ligne de parti, puis il se positionne centre-gauche, identitaire, dans leur position. Tandis que quand on remonte à la fondation même du Parti québécois, ben, ils avaient réussi à aller chercher des gens de tous les horizons, autant de droite, de gauche, identitaire, pas identitaire, que leur but ultime à eux, c'était de faire l'indépendance. C'est ce qui avait fait la force du mouvement avant, tu sais.
Puis le premier référendum, tu sais, moi, ce qui m'a frappé, c'est dans mon cours de littérature québécoise au cégep, on en a tellement parlé, tu sais, de... Puis ça s'est beaucoup, je pense, véhiculé à travers la culture. Mm-hmm. Tu sais, il y avait, dans le PQ, là, il y avait beaucoup d'artistes.
Beaucoup.
Des artistes populaires, là, au Québec, là, tu sais, qui s'étaient alliés à cette idée-là. Puis ce regroupement-là, je pense, naissait vraiment beaucoup d'une pulsion culturelle de se séparer du Canada... Parce qu'on reconnaissait que il y avait une possibilité pour le Québec de s'émanciper, d'être autonome, d'être un État à lui-même. Il y avait aussi la question qu'on sentait pas qu'on partageait, en tout cas du côté du oui, là, on sentait pas qu'on partageait nécessairement la même culture ou les mêmes valeurs que le Canada des autres provinces. J'aime pas dire Canada anglais parce que je me dis, la communauté anglophone, pour moi, je pense que, moi, dans ma vision de la souveraineté, je pense qu'on doit inclure tout le monde. Autant les anglophones que...
Ouais, je veux dire oui, mais.
Oui, mais non, mais en même temps, je suis un très grand défenseur et admirateur de la langue française. Là. Je pense qu'elle est quelque chose de très beau et d'unique. Puis, même aussi dans la langue populaire du Québec. Mais en même temps, je pense que c'est un projet de société. Tu sais, pourquoi on mettrait à l'écart des groupes? Je pense que c'est important de rallier un peu tout le monde là-dedans. Parce que le Québec, est-ce que le Québec, c'est seulement une question de... Est-ce qu'on devrait faire la souveraineté simplement pour une question de langue? Parce qu'on est dans un pays majoritairement anglophone. Je pense que ça devrait être seulement la question de langue. Je pense qu'il y a autre chose, tu sais. À part le pâté chinois, tu sais, je pense que... Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui fait que le Québec se distingue du Canada anglais. Puis on pourra peut-être en parler de plus dans la deuxième partie, là.
Non, c'est sûr, mais tu sais, avant qu'on aille à la pause, je veux dire, au niveau de la communauté anglophone, c'est sûr qu'il y a des anglophones qui sont québécois. Puis souvent, ils se sentent oubliés dans ce débat-là, tu sais. Mais d'un autre côté, quand tu regardes l'état de la langue française dans le reste du Canada, je veux dire, c'est déplorable. Je veux dire, il n'y a aucune province qui prend ça au sérieux. Il y a des communautés qui sont de plus en plus petites. Ils se font couper leur budget dans les universités. Tu sais, tandis que si tu regardes la gestion de la minorité linguistique dans les autres provinces versus au Québec, genre, les anglophones au Québec, c'est une des minorités linguistiques les mieux traitées à travers le monde. Mm-hmm. Au niveau du système scolaire, leur propre système d'éducation, ils ont leurs propres hôpitaux, ils ont leur propre quartier. Je veux dire, ça va pas si mal que ça, tu sais.
Mais est-ce que tu penses qu'à quelque part, il n'y a pas une espèce de rôle à jouer du côté du fédéral là-dedans? Tu sais, il reste quand même que...
Ben oui puis non, mais...
Moi, j'ai l'impression que dans la communauté anglophone, ils sont canadiens et après québécois, tu sais, ils sont d'abord canadiens.
Oui.
Parce que, je m'excuse, mais je vais à Lennoxville... Puis je vois des drapeaux canadiens hissés devant leur maison, là, tu sais.
Ouais.
Puis je vais dans...
On va à Matane.
Dans le bas du fleuve, puis c'est des drapeaux du Québec, là.
C'est le long de la 132. Vraiment.
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, on a vraiment pas le même feeling, là.
Ben, il y a eu clairement une brisure entre les anglophones du Québec, puis, je veux dire, les francophones. La brisure existe depuis toujours, tu sais. On dirait que pour plusieurs, les anglophones devraient pas faire partie de ce projet-là. Mais en même temps, je suis prêt à parier que c'est vraiment pas de majorité d'anglophones qui vivent au Québec qui veulent voir le Québec se séparer, tu sais.
Mais est-ce que ça veut dire...
minorité. Il y a comme plusieurs immigrants qui veulent voir le Québec se séparer, tu sais. Comme quand Jacques Parizeau a dit qu'on a perdu à cause du vote ethnique, c'est pas totalement vrai, tu sais. C'est des propos à nuancer. À cause de l'argent, oui. Dépassement des coûts de la loi électorale, etc. Mais à cause du vote ethnique en tant que tel, c'est très, très, très discutable. Même que ça, des fois, quand tu y repenses, quand tu regardes les statistiques, c'est plus le vote de Québec qui a fait couler le référendum et non pas le vote de Montréal, comme que plusieurs semblent penser. Là.
Ouais. Je pense qu'on peut continuer là-dessus après la courte pause.
Oui, on va aller en pause. Puis ensuite, on va écouter pour aller en thématique avec notre sujet d'aujourd'hui, on va aller écouter Mon pays des Cowboys Fringants.
Un Québécois, pour moi, c'est quelqu'un qui décide de l'être, quelle que soit sa langue, son origine ethnique, la couleur de sa peau, son orientation sexuelle.
Pour un Québécois, faut être souverain.
J'en ai rien à cirer.
Pour un Québécois, faut être souverain.
Il faut vouloir faire du Québec son pays.
Vous êtes toujours en onde sur les ondes de CFAQ pour l'émission Dans le fossé. On continue notre discussion autour de la souveraineté et du Québec moderne. Ceux qui sont très fans des Cowboys Fringants, on est désolé du problème technique qui vient de se passer. On a écouté la tune Galaxy du groupe Camouflage. Et ça sort pas du repu, on apprend, c'est notre cinquième émission. On pourrait remettre la chanson, à la semaine prochaine, peut-être.
Ben ouais, on fera ça.
C'était bien thématique, ça s'appelait Mon pays. Mais
c'est pas grave. On va vous gâter la semaine prochaine avec cette pièce des Cowboys Fringants.
Exact.
William, j'aimerais qu'on entendait dans l'intro là, de l'émission du retour Pierre Falardeau, qui dans une entrevue avec Pierre Arcan ou Paul?
Pierre. Paul Arcan.
Un homme d'intensité et d'entrevue. On entendait Pierre Falardeau qui se prononçait sur c'est quoi être un Québécois. Puis pour lui, être un Québécois, c'est de vouloir faire du Québec un pays. Puis Paul Arcan disait, mais être Québécois, c'est être souverainiste. J'aimerais qu'on traite un peu de la question du souverainisme versus le nationalisme. Moi, je prétends qu'il y a une différence. Puis j'ai lu aussi, je vais t'avouer, j'ai un peu lu des textes qui soutenaient aussi qu'il y avait une différence entre le nationalisme et la souveraineté, ou le souverainisme.
Ouais.
Puis, tu sais, le nationalisme, il est présent dans beaucoup de pays, là, tu sais, ou dans des États ou dans des provinces, mais ils n'ont pas nécessairement la volonté d'être de la souveraineté.
Non.
Tu sais, il y a du nationalisme dans certains États américains, mais il n'est pas nécessairement question de souverainisme. Tu sais. Puis, je pense que c'est important de faire la distinction parce que on associe souvent au souverainisme l'idée de plus à l'époque un peu, je crois, là, du premier référendum, on disait, les souverainistes, c'est des catholiques français qui veulent rien savoir de l'anglais puis qui pensent qu'ils sont assimilés puis qui veulent protéger leur belle langue française, la loi 101, non. Mais ça, c'est un peu plus, je pense, des questions de l'ordre du nationalisme. Puis je pense que le souverainisme, en fait, c'est vraiment plus justement la question de s'affirmer comme étant capable de prendre en main soi-même l'idée du maître chez nous, là,
oui.
Puis de prendre en main les rênes de notre nation. Puis justement, je pense que c'est beaucoup plus politique et économique. J'aimerais t'entendre un peu le souverainisme. Je pense que c'est beaucoup plus des raisons politiques et économiques. Tandis que j'ai l'impression que le nationalisme... Mais c'est sûr que ces deux-là ne sont pas divisibles. Il y a, dans le souverainisme, il y a nécessairement des souverainistes qui sont très nationalistes. Puis il y a des souverainistes qui sont peut-être un peu moins nationalistes classiques, je peux dire. Nationalistes comme il y a eu du nationalisme depuis 1867, depuis même avant ça. T'sais, le nationalisme, lui, a toujours été présent. Mais la question du souverainisme est un peu plus récente, si je ne m'abuse. Puis, je pense que c'est important de faire la distinction parce que moi, je me présente aux gens comme étant souverainiste. Oui, je suis un peu nationaliste aussi, mais moi, les questions de... tu sais, le Québécois de souche, là, moi, je trouve ça super toxique. Tu sais, Québécois de souche, tu sais. Moi, mes ancêtres, c'est tous des Canadiens français, là, tu sais. J'ai dans ma famille, ils traitent bien gros sur les arbres généalogiques, là, mais... T'sais, j'ai aucun nom anglophone là, qui a été répertorié dans les alliances qui ont mené à ma création. Mais c'est ça, tu sais. Mais pour moi, l'idée du Québécois de souche, je trouve que c'est un peu toxique. Tout en. Penses-tu qu'il y a une différence entre les deux ou?
Ben, il y a clairement une différence entre les deux. Le nationalisme en tant que tel, c'est une notion que tu peux retrouver dans t'as le mot nation dans nationalisme. Fait que toutes les nations ont une forme de nationalisme. Tu peux être nationaliste canadien si tu veux. Tu peux être nationaliste québécois. Aux États-Unis, il y en a des nationalistes. Puis après ça, le niveau supérieur, c'est du patriotisme. Comme que tu as un peu plus en France. T'sais.
Mm-hmm.
Les nations qui souhaitent adhérer à une autodétermination font souvent preuve de nationalisme avant. Mettre les idées et les enjeux de la nation au premier plan. De la classe majoritaire au Québec. Puis tu sais, au Québec, c'est comme. On est une nation d'Amérique du Nord où, je veux dire, la base électorale de la CAQ, je veux dire, c'est le 4-5-0, c'est les gens en région, tu sais, puis c'est ça le Québec, tu sais. Quand tu regardes, mettons, Montréal fait partie du Québec. Mais à bien des définitions, Montréal n'est pas le Québec non plus. T'sais, au niveau de niveau d'immigration, au niveau de plusieurs enjeux aussi. Je pense que comme la CAQ l'a bien senti, ça, où aller chercher le vote, c'est quoi les gens qui veulent vraiment mettre les enjeux du Québec en premier, t'sais, des francophones en premier. Puis c'est surtout ça autour que tourne le nationalisme au Québec, t'sais, c'est la langue. T'sais. Puis quand tu regardes Montréal qui devient de plus en plus anglophone, les nouveaux arrivants qui naturellement comprennent pas vraiment l'enjeu, ils sont plus nationalistes canadiens, tu sais. Puis l'enjeu avec ça, c'est que les deux, troisième, quatrième génération d'immigrants qui viennent au Québec, c'est là qu'il y a une perte de repères, puis ils viennent chercher un peu, genre, est-ce que je suis québécois, est-ce que je suis, tu sais. Je peux se comprendre un peu ce que je veux dire, tu sais.
Ouais, puis en même temps, tu sais, la question, tu sais, je trouve qu'elle est tellement moins populaire qu'avant, là. Tu sais, je pense à des nouveaux arrivants qui arrivaient dans les années 80, dans les années 90, ils allaient beaucoup plus rapidement se poser la question, je crois, qu'aujourd'hui. J'ai pas l'impression que c'est tellement populaire. Puis, tu sais, je suis un peu biaisé parce que, veux pas, je suis entouré d'amis qui sont assez engagés quand même politiquement ou qui ont une position plus souverainiste là, par rapport à l'avenir du Québec.
Mm-hmm.
Fait que moi, j'ai l'impression que c'est encore d'actualité. Mais je pose la question à des gens que je connais un peu moins ou même à d'autres amis, puis ils n'ont pas vraiment de position là-dessus. Là.
Parce qu'avant, quand tu parles des immigrants qui venaient aux nouveaux années 80-90, c'est qu'éventuellement, le référendum allait venir, puis ils devaient se poser la question parce qu'ils devaient voter, savoir comment eux ils sentent par rapport à l'enjeu du Québec qui devient un pays. T'sais. C'est quoi la place? Un immigrant qui vient au Canada. Qui choisit le Québec pour terre d'accueil, lui, dans sa tête, il a choisi le Canada. T'sais. Il n'a pas choisi le Québec comme pays. T'sais. Fait que c'est au niveau de l'attachement, comment tu te sens par rapport à la nation. T'sais. Mm-hmm. Comme à chaque fois que tu es deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération d'immigrants, ben, je veux dire, oui, tu as un attachement à ta culture.
Mais il y a une naturalisation.
Oui, une naturalisation. Ouais. Puis comme je disais tantôt, c'est pas le vote de Montréal, c'est le vote de Québec qui a fait pencher la balance vers la côté du non. T'sais. Il y a beaucoup d'immigrants qui se sont sentis trahis par les mots de Jacques Parizeau en 95 après la défaite. Il y en a beaucoup qui s'étaient fait à l'idée que moi, je veux voir le Québec se séparer, tu sais, puis je me sens québécois.
Ouais, mais je pense que je pense qu'il y avait beaucoup de colère colère refoulée là, dans le message de Parizeau. Ben, tu sais, oui. c'est une défaite vraiment amère là, parce qu'on avait un écart tellement faible entre le oui puis le non.
Tous les sondages. Ben, le dernier sondage qui avait été fait avant le vote décisif pointait vers une victoire du oui, tu sais. Puis c'est là que le gouverneur fédéral a décidé de mettre les bouchées doubles. Quand je parle de bouchées doubles, c'est qu'il y avait une loi électorale spéciale qui avait été votée où autant le camp du non que le camp du oui devait respecter la limite de 5 millions de dollars de dépenses électorales, publicité, etc., etc. Tout ce qui a trait à la campagne ne devait pas dépasser 5 millions. Puis le gouvernement fédéral a juste complètement explosé ce budget-là en atteignant 18-23 millions. Là.
Pour le non.
Pour le non, ouais. Pour le non. Quand on parle les pubs qui avaient été faits dans les rues de Montréal, les collants du non, je veux dire, le love-in qui s'était passé fin octobre dans les rues de Montréal, l'acceptation de nombreux passeports en quelques semaines au lieu de plusieurs mois, avoir la nationalité plus vite que prévu pour aller voter contre. Tu sais, je veux dire, c'est la game politique qui s'est jouée à l'époque. Tu sais. Puis je comprends la frustration de Jacques Parizeau à l'époque. Là.
Mm-hmm.
Quand tu penses que tu as tous les éléments réunis pour atteindre ton but, le but qui avait été fixé par René Lévesque il y a plusieurs années, tu sais.
Ben,
c'est frustrant, tu sais. Est-ce que ça excuse ses propos? Non. Puis je veux te raconter une anecdote par rapport à ça. Quand je suivais un cours de journalisme à l'Université de Montréal, il y avait quelqu'un dans la salle qui était infirmier. Puis il avait été infirmier pour Jacques Parizeau dans ses derniers moments. Puis il était d'une nationalité, je ne me rappelle plus laquelle, je pense qu'il était marocain. Puis quand Jacques Parizeau était sur son lit d'hôpital, il l'avait pris par la main, puis il avait dit: tu sais ce que je regrette, ce que j'ai dit en 80, ce que j'ai dit.
Ah ouais.
Puis là, il avait dit,
jusque dans ouais, sur son lit de mort,
il avait dit ça. C'était sur l'émotion, genre, il dit, je regrette ce que j'ai dit, genre. C'était fou dans la classe, ça a fait wow.
Mais en même temps, qu'il ait dit ça, tu vois comment il avait ça à cœur, là, tu sais. Il croyait profondément, là. Parce que tu peux pas hey, tu te bats contre un fédéralisme historique, là, tu sais, tu te bats contre une majorité là, dans le pays, puis tu sais, comme on voit la Catalogne qui avait réussi, là. Mais en tout cas,
c'était 6 millions contre 24 millions de personnes, là. Je veux dire,
ouais,
c'est
mais
fou,
c'est
là.
Ça. Ouais.
Puis comme, en tout cas, moi, ce que je trouve complètement que je trouve fou, c'est que ce débat-là, anglophone, francophone, tu sais, je veux dire, en tout cas, je vais pas me partir là-dessus, là.
Mais moi, je pense que ça devrait pas tourner. C'est sûr que moi, mais c'est sûr que pour moi, le Québec, il y a une bonne partie de moi qui, c'est parce que il y a la langue française. Il y a la langue française, il y a notre adaptation de la langue française. Je pense qu'on l'a assez beaucoup modifié à travers le temps. Mais c'est sûr que pour moi, il y a un attachement super fort à la langue, à la question de la langue. Mais en même temps, puis assurément, il ne faut pas la perdre, mais assurément, il ne faut pas non plus empêcher les autres de conserver la leur. Mais je pense que ça devrait être dans une idée de partage. De partager cette langue-là, puis de la valoriser, puis de la mettre à l'avant-plan, sans pour autant non plus donner l'impression que ça devrait être la seule langue qui existe. T'sais?
Non plus.
Parce que tout le monde peut parler plus qu'une langue. Là. On s'entend, là, entre guillemets. Là, c'est sûr que les nouveaux arrivants qui sont plus âgés, puis tout ça, je peux comprendre que c'est vraiment plus difficile. Fait que ça, il faut mettre des efforts là-dessus aussi. Leur donner des outils pour bien s'insérer dans notre société.
Les chances de francisation, etc. L'obligation
exact.
De l'école en
ça
français.
Ça fonctionne. T'sais, je connais des gens qui ont enseigné en francisation. Puis pour vrai, même des gens de 40, 50 ans réussissent à éventuellement débloquer. Puis la langue française, c'est pas une langue facile non plus. Là. Il y a tellement de règles, d'exceptions. Puis ça n'a pas vraiment de bon sens. Là, mais à ce niveau-là, je trouve. Mais quand même, je pense que ça devrait être plus dans une idée d'un projet qui est rassembleur. Puis. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de peur autour de... Il y a beaucoup de souverainisme, tu sais, de la question encore du Québécois de souche, qui va tourner autour d'une espèce de peur de perdre sa culture, de dire, bon, mais si on devient un pays, ben là, notre culture va beaucoup mieux survivre parce que là, on va avoir un gouvernement qui va en prendre soin puis tout ça. Mais c'est pas au gouvernement de prendre soin de notre culture, c'est à nous de le faire, tu sais. Puis je vois des gens qui, bon, justement, vont aller consommer beaucoup de choses qui sont produites ailleurs, tu sais, qui sont pas une, mais c'est dans notre quotidien qu'on va venir la valoriser au final, tu sais. C'est pas le gouvernement qui va dire allez acheter du café à ce café-là qui est la brûlerie qui brûle le café dans votre ville. Tu sais, mais les gens ils continuent d'aller acheter genre du Nescafé puis
Starbucks.
C'est ça, tu sais. Mais c'est ça. Si les gens veulent pas perdre leur culture puis veulent valoriser leur patrimoine, ben c'est à eux de le faire aussi, là. Parce que la pensée magique que le gouvernement s'occupe de tout puis règle toutes les questions...
ça marche pas, ça.
Mais tu sais, c'est ça. Mais je pense que...
Mais ça, c'est un problème d'éducation, là. Je veux dire, rendu là, c'est faut que tu aies une curiosité intellectuelle. Puis comme quand tu regardes le Québec, où ce qui est placé, je veux dire, on est la minorité francophone dans toute l'Amérique du Nord. Quand tu parles du sud de l'Amérique jusqu'au Nord, on est les seuls qui parlent français, tu sais. Au niveau de la langue, c'est vrai. Est-ce qu'on devrait consommer plus notre propre culture? C'est vrai. Est-ce qu'il manque des investissements en culture?
Tout à fait.
Ouais. Est-ce que, tu sais, on parle de souveraineté, là, moi, tu me dis demain, il y a un vote pour la souveraineté du Québec, puis je me pose la question, est-ce que je vote oui ou est-ce que je vote non, tu sais. Est-ce que moi, je ne considère pas que les éléments nécessaires à la souveraineté du Québec sont rassemblés aujourd'hui?
Mais non, puis justement, je voulais revenir là-dessus. Je t'entendais tantôt parler de 95, puis je me disais, ben, est-ce qu'au final, on avait bien préparé la population? Est-ce qu'on leur avait vraiment donné les informations? Puis, tu sais, j'étais pas là, là, j'avais 2 ans, là. Puis, mais, tu sais. Wow. Est-ce qu'on avait vraiment, dans les différents médias, donné accès à leur juste aux gens, de présenter autant les arguments, économiques?
OK, moi je te relance tout de suite. Est-ce que tu penses que les médias aujourd'hui te donnent leur juste sur tous les enjeux qui se passent?
Non, mais justement, en fait, c'est que il y avait déjà, je pense, de la désinformation.
Oui, il y en a.
Parce que dans le camp du non, on venait dire aux gens, hey, écoutez, là, la péréquation, c'est ça qui fait que le Québec vit. Sans le Canada, hey. Les Brinks là, qui est allé, les camions qui sont allés chercher, ils filmaient ça, ils vidaient les banques. Ils vidaient les banques de tout l'argent. Tu sais, mais ils ont fait ça avec une banque, ils ont pris des camions, ils les ont remplis d'argent, ils ont vidé la monnaie canadienne de ces banques-là pour envoyer le message aux Québécois que hey, si demain le Québec est souverain, là, vous n'avez plus d'argent. Là. Genre, vous n'avez plus de monnaie, vous n'avez plus aucun pouvoir économique. Et les gens ils capotaient, là, tu sais.
C'est que l'après était pas, je sais pas s'il était bien préparé, je sais pas. J'étais pas là, j'étais pas né, puis même aujourd'hui, il y a un document de 700 pages qui avait été écrit sur comment faire la souveraineté association une fois que le vote du oui avait été passé, tu sais. Quand tu regardes un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le Brexit, tu peux voir un peu par lequel processus le Québec serait passé pour atteindre un peu son indépendance. Je sais pas un peu qu'est-ce que tu veux dire, en tout cas, si tu fais un peu le Brexit, là, je veux dire, ils sont encore dans faire les papiers, puis essayer de...
Là, c'est pas facile.
C'est pas facile.
C'est pas facile, c'est sûr.
Puis comme, dans le temps, le gouvernement fédéral voulait rien savoir là, du Québec, voulait séparer. Même le gouverneur général, qui son rôle est assez obsolète aujourd'hui, c'est lui qui aurait dû à la fin se prononcer sur est-ce que le vote est légitime ou non, ou s'il acceptait la décision du Québec de vouloir devenir une nation indépendante, puis à l'époque, ça avait fait un gros tabou, 180, parce que le gouverneur général ne voulait pas reconnaître ça du Québec. Mm-hmm. Il ne voulait pas reconnaître son droit à l'autodétermination, tu sais.
Mais c'est, je pense que là où est-ce que, tu sais, mettons, je parle un peu plus des années 70, ou en tout cas fin 60-70, là, il y avait eu, il y a eu la montée du FLQ, qui était un mouvement, je pense, qui, on peut dire souverainiste, là. Ben, pas nécessairement souverainiste, mais plus nationaliste francophone.
Oui, extrémiste dans certains...
Puis extrémiste, mais oui, ouais. C'est ça. Mais ça c'est, on dirait que ça c'est né d'une frustration. Tu sais, c'est un mouvement qui est né un peu dans la colère. Puis éventuellement, c'est par des voies plus démocratiques, par la création de partis, par l'élection, qu'on a voulu traiter de la question, qu'on a voulu amener le Québec à se prononcer sur la question nationaliste.
Mais le FLQ ne reconnaissait pas ces droits démocratiques-là comme étant un moyen vers... l'indépendance, ne croyait plus aux moyens démocratiques qui étaient à leur disposition pour atteindre le but, tu sais.
Puis il y avait...
Puis comme la frustration que le FLQ avait, tu sais, il ne faut pas glorifier ce qui a été fait, là. Je veux dire, c'est un groupe assez extrémiste dans ses actions, tu sais. Mm-hmm. Il faut analyser, puis il faut être nuancé dans comment on approche que ce qui avait été défendu par le FLQ à l'époque. Mais la frustration qu'eux dégageaient, ça montre un peu le portrait de la population dans ces années-là au niveau de la frustration, tu sais. Quand tu parles des médias, ce qui donnait vraiment leur juste au niveau... c'est pas juste les médias, les gens s'étaient fait une propre idée sur pour qui aller voter, puis pourquoi, puis pour, est-ce que le Québec devrait être indépendant. Il y avait une frustration qui s'était créée malgré ce que les médias pouvaient rapporter. Là. Mais ça... de la brisure avec le Canada anglais, puis avec le gouvernement fédéral d'abord et avant tout.
Puis les bourgeois, la classe bourgeoise, là, parce qu'on se rappelle, à l'époque, on était encore dans une dominance, même au Québec, on était encore dans une dominance des anglophones dans les postes. De direction, dans les propriétaires. Aujourd'hui, je pense que ça l'a changé un peu. Écoute.
95, depuis la loi de 101, là, je veux dire.
Oui, non, mais je veux dire, François, notre premier ministre, Frankie Boy, a créé une compagnie de
Air Transat, oui.
Bon, Air Transat, là, puis c'est pas le gars le plus anglophone qu'on a au Québec, là, tu sais.
Non, non.
Fait que, bon, on mettra justement au retour de la pause un délicieux extrait de notre François National qui se prononce sur. Ce qu'on a d'unique au Québec, là, vous l'avez peut-être déjà entendu dans les autres émissions, mais je pense que c'est né d'une colère de la classe ouvrière. C'est encore un peu une espèce de... Ça faisait pas tellement longtemps qu'on avait identifié ce problème-là, le prolétariat versus la classe bourgeoise. Puis on n'était pas... Ben, corrige-moi si je me trompe, mais je veux dire, on était c'était fini cette époque-là, Marx, puis tout ça, puis ces déclarations-là de... l'exploitation d'une classe ouvrière, de la force de travail puis tout ça, mais il y avait quand même un sentiment d'injustice, d'exploitation par les Canadiens français qui... le Québécois qui dit... les Canadiens français de l'époque qui disaient les Québécois, on est nés pour un petit pain. Hein. Mais c'était ça.
Ben, ce contexte-là, moi, je pense qu'il était plus... C'était plus dans le temps de la loi 101, tu sais, au niveau de travailleurs français. Puis 1980, c'était plus ça l'enjeu, tu sais.
Mais l'FLQ, ça a connu un essor dans les années 70. Puis, en tout cas, c'était le sentiment d'arrogance aussi, je pense, de la part de monsieur...
C'était les anglophones qui regardaient les francophones de haut, tu sais. Pour rien qu'ils nous appelaient les frogs, parce qu'ils disaient que les francophones habitaient proche des marais, puis qu'on n'était pas intelligents, hein, puis tu sais.
Je pensais que c'était pour les W.
Non.
Tu mettons, where were you? Tu sais, on a de la misère avec les W.
Non, frogs, c'est parce qu'on habitait proche des marais.
Ah, c'est vrai, je savais pas.
W aussi, là.
Ma vie est un mensonge. Moi, c'est pas grave.
Mais tu sais, mettons, quand tu parles, mettons, c'est pas juste la langue au Québec là, pour qu'on prenne l'indépendance, c'est comment on voit les gens eux, comment on traite notre énergie, comment on traite l'immigration. Je veux dire, on fait tout différemment du reste du Canada. Tout différemment. Puis quand tu parles de la péréquation, tu sais, c'est un débat que j'ai souvent genre, avec ma famille. On s'entête à dire que le Québec reçoit 9 milliards, tu sais. Mais il y a deux choses qu'on peut apporter à ça, c'est que chaque province contribue à la péréquation. Et dans le 9 milliards que le Québec reçoit, le Québec donne 2,4 milliards de son propre argent pour la péréquation. Et le Québec est la province qui en reçoit le moins. Par habitant.
Puis, ce qui va être utilisé à la défense de... C'est sûr que, mettons, par exemple, l'Alberta va contribuer beaucoup, mais leur économie est basée sur quoi? Certainement pas une source d'énergie du futur. Fait qu'il est où le futur pour le Québec? Est-ce qu'il est vraiment dans les énergies fossiles? Je penserais pas.
Est-ce que tu penses que c'est le fun de se faire imposer un pipeline par un gouvernement conservateur, tandis qu'on n'a rien à voir avec ça, tu sais? Pourquoi nous, on devrait payer les coûts d'une économie basée uniquement sur le pétrole?
Puis pourquoi on devrait risquer nos propres richesses naturelles et notre biodiversité pour faire passer un oléoduc qui, au final, va enrichir l'Ouest canadien puis va aller fournir un produit en Europe puis en Asie? Puis
tu parles de GNL, là?
Ben, entre autres, là, par exemple.
Ouais, ça, c'est un peu ironique. Là. Je me demande vraiment si ça va passer ou non. Là.
On verra, mais...
questionnement.
Le BAP, est-ce qu'il fait bien son rôle dans dans le cas de GNL.
C'est-tu vraiment démocratique? C'est le sujet de l'essai de notre ami. Nous en essayer.
Qui ça?
Laurence a fait un essai.
Ah ouais, ok.
Me semble. Corrige-moi, Laurence, si jamais c'est pas vrai. On va aller en chanson.
On va aller en chanson? Ok, ouais. C'est à coupe sec. Let's go.
On coupe sec parce qu'on a on s'est fait dire la semaine passée qu'il fallait respecter notre temps.
Donc, on va faire ça.
On va écouter quoi, Vincent?
On va écouter une nouveauté de notre Fouki National. Ça s'intitule, je vous le trouve à l'instant, ça sera pas très long. Wow. Je l'avais tantôt. Et on parle de brioche à la cannelle.
Parfait, allons-y.
On va rester à la canne. On est en bobette. Fume le cocon qui reste. Et m'y prévoir aucun bail. On mange des brioches à la cannelle. Brioche à la cannelle. On mange des brioches à la cannelle. Brioche à la cannelle. Brioche à la cannelle. Burning camel, on reste à l'abri dans le lit pas habillé. J'ai pas l'âge de Noé, baby, juste nous deux. Mélange un jus d'orange avec le mousse. Caillé sur la vie et tout est savoureux. Même comme ce goût, yeah. On les brioches, make me so wild. Et a Pittsburgh pour mon gros smile. Rappelle les dessins de ma grandma. Le bonheur en odeur pour maman. On va rester à la canne. On est en bavette. Le cocon qui reste et nous prévoir au travail. On mange des brioches à la cannelle. Brioche à la cannelle. On mange des brioches à la cannelle. Brioche à la cannelle. Une tasse de lait. De cannelle, trois tasses de farine, une pincée de sel. Il faut beaucoup d'amour dans la recette. Coup de sucre et un peu de surette. Sirop d'érable comme un caramel à sucre. Beaucoup de thèmes comme dans un banana split. Mais oublie pas le barbarba. J'ai le visou aiguisé. Des bisous épicés. Pas besoin de s'habiller. Juste besoin de s'abriller. Petit dégât de sucre dans la couverte. Laissez le programme dans ma jouette. Même si c'est l'inverse, pas besoin de mettre une veste, on va rester à la caille. On est en bobette, fume le cocon qui reste, et mieux de prévoir aucun bail. On mange des brioches à la cannelle. Brioche à la cannelle. On mange des brioches à la cannelle.
Donc, depuis 1985, la question est « What does Canada want? » Et on attend encore la réponse du Canada.
We have our home culture. We have a distinct language, French language. And it's a plus for all of us.
Rebonjour à l'émission Dans le fossé, dans notre débat animé autour de la souveraineté et de l'avenir du Québec. Vous venez d'entendre dans notre jungle deux anciens premiers ministres, donc premièrement François Legault, en deuxièmement, premièrement c'était Robert Bourassa et François Legault.
Deux niveaux d'éloquence, à mon avis, qui sont beaucoup différents.
Deux preuves de premiers ministres qui étaient nationalistes aussi à l'époque.
Oui, tout à fait.
Robert Bourassa est selon moi le dernier premier ministre libéral à avoir été nationaliste, le dernier bon premier ministre libéral du Parti libéral du Québec.
Après ça, ça a été plus des économistes.
Ça a été des années très sombres pour le Québec, selon moi, depuis les années 90. J'ai vraiment pas peur de le dire comme ça.
Non, mais c'est correct.
Je pense que pourquoi la CAQ est aussi haut dans les sondages aujourd'hui, malgré la pandémie, pourquoi la CAQ a eu autant d'appui, pourquoi elle est capable de prendre des chanteaux libéraux, c'est justement C'est notamment par le fait que le gouvernement, le Parti libéral du Québec, a ri des Québécois pendant plus toutes les années au pouvoir.
Je pense que les Québécois sont un peu fâchés, je pense.
C'est que le Parti libéral n'était pas capable ne s'occupait pas assez de la classe majoritaire au Québec, qui était les régions et le 4-5-0. Tu sais. Leur vote était majoritaire.
La classe moyenne.
C'est surtout ça.
Pourtant, dans les débats, semblait vouloir faire déplacer des montagnes pour cette fameuse classe moyenne-là. Pour ne constater, je pense que d'un gouvernement Charest à un gouvernement Couillard, je pense que c'est juste le nom qui a changé. Mais sinon, c'était les mêmes rouages, puis les mêmes personnes, les mêmes têtes fortes, là, puis les mêmes objectifs aussi. Puis,
exact.
C'est le plan Nord, là, écoute, au niveau de la question des Autochtones, puis de la reconnaissance de leur...
De tout.
Qu'on n'embarquera pas dans
la
question.
On pourrait faire 3 émissions complètes sur la malgérance du Québec par le PLQ dans les dernières années.
Mais c'est pas le point. François Legault qui dit que la langue française est de plus. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'on pourrait s'en aller un peu plus vers encore la question de la langue française?
Ben, la manière qu'il dit « it's a plus », c'est dans une entrevue qu'il avait donnée à The Gazette, je pense, là, une entrevue.
Avant, je pense que c'était la naissance de la CAQ.
La
mort de l'ADQ.
Ce qui est le fun avec la CAQ, c'est que, ouais, c'est un mélange d'anciens péquistes et d'anciens ADQistes. C'est ça qui est avec la CAQ, là, qui est quand même assez plaisant à regarder. Au niveau de comment ils ont été capables d'aller chercher le vote nationaliste qu'ils ont réussi à prendre à un peu QS.
Mais pas souverainiste, c'est ça. C'est qu'ils sont allés rassembler.
Oui et non.
Je suis pas d'accord.
Comme on a dit au début de l'émission, il y a des gens qui ont voté oui en 95 qui voteraient non aujourd'hui, mais qui se sentent quand même nationalistes. C'est ce vote-là que la CAQ est allée chercher.
Mais c'est ça que je te dis, quand il y a une différence entre le nationalisme et le souverainisme.
Ça te prend du nationalisme pour atteindre le souverainisme. Ça te prend ça. Ça te prend un mouvement sociétal.
Ça naît de là, mais je pense que le souverainisme, c'est un step plus loin.
Oui, mais c'est la consécration des efforts qui ont été mis de mettre ta culture en avant, de prioriser la classe majoritaire de ton territoire pour aller à un niveau supérieur. Tu sais. Est-ce qu'un jour ça va arriver? Est-ce qu'on va le voir en notre vivant? Ça, c'est une autre question. Tu sais. Mais quand tu regardes le PQ, qui avait ce vote-là avant, qui avait le vote nationaliste, aujourd'hui, ils le perdent. Ils ont moins de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale que Québec solidaire.
Mm-hmm.
Une question qu'on...
Ça a fait parler beaucoup. Puis, tu sais, est-ce qu'on peut vraiment appeler encore le PQ le Parti québécois? Je pense que le Parti québécois pourrait changer de nom. Pour être bien franc, là, moi, il y a un discours de... Même déjà dans les années 70, ça faisait pas longtemps qu'il existait, ce parti-là. Là. Bourgault, qui venait devant tous les... des membres du Parti québécois, devant René Lévesque, devant les ministres, vient critiquer le Parti québécois puis dire qu'il est déjà en train de s'éloigner des valeurs puis des raisons qui ont été le berceau du PQ, qui ont amené à sa naissance. Puis il dit que il faisait une critique du PQ en disant qu'il se rapprochait d'un vieux parti, d'un parti qui allait conforter le statu quo, qui allait dire des choses qui allaient pas faire peur aux gens parce qu'on veut avoir l'impression que ce vote-là, c'est la sécurité. Lui, il traitait beaucoup de la question de la sécurité. Puis il dit, ce qu'on veut faire, la souveraineté du Québec, ce n'est pas la sécurité. Il dit, ça va être difficile, mais c'est une nécessité. T'sais. Puis lui, se cachait pas du fait que ça sera pas facile, la souveraineté. Là. On ne dit pas que ça va être facile. C'est ça. Puis même aujourd'hui, ça ne serait pas, puis ça le rend encore moins, je pense. Mais justement... Lui, déjà, dans les années 70, venait critiquer le Parti québécois. Le Parti québécois, écoute, on est en 2020 et ce parti-là existe encore. Puis, là, il faudrait me corriger si je me trompe, mais je pense même que René Lévesque avait déjà mentionné le souhait que ce parti-là ne soit pas un parti qui va durer plus que 20 ans. Parce que, tu sais, je dis un chiffre comme ça, là, mais il n'avait pas dans l'idée que ça allait être un parti qui allait durer des années et des années.
Il voyait une fin.
Oui, parce qu'il y avait un objectif là-dedans. Il y avait une finalité qu'on voulait atteindre. Une fois qu'on l'aura atteint, on aura un nouveau pays qui fera apparaître des nouvelles idées, des nouveaux chocs de valeurs, puis ce sera d'autres partis qui prendront la relève. Mais d'abord, c'est de faire la souveraineté.
Ah, mais tu sais, quand tu regardes le premier article du Parti québécois, c'est de faire l'indépendance. Est-ce que l'article était pertinent à la fondation du parti jusqu'à 95?
Oui.
Aujourd'hui, c'est encore le premier article du parti. Puis il parle encore de souveraineté comme si c'était l'enjeu le plus populaire. Puis c'est l'équivalent là, d'avoir un chien mort, d'avoir un chien, vraiment en santé que tout le monde aime jusqu'en 95, puis à un moment donné, le chien, il meurt. Puis toi, tu veux pas que ton chien meure, fait que tu le fais empailler, tu lui mets des roulettes dans tous des pieds, puis tu le traînes avec une laisse sur le trottoir. C'est l'équivalent de ce que le Parti québécois fait avec la dépendance aujourd'hui. Les gens sont tannés d'en entendre parler. Il n'y a pas de fin d'opportunité. Il n'y a rien qui se passe dans ce dossier-là. N'en parler ne fait qu'aggraver la situation. Le parti est en train de briser un peu l'idée. Genre. C'est facile après. Là, pourquoi, dans toutes ces années, on a eu des années libérales? Les libéraux disaient « Ah, si le PQ gagne, ils vont avoir un référendum. » Là, le monde ne sont pas dans. Fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, les libéraux, ils gagnent.
Puis on dirait que c'est un peu le phénomène de plus que tu dis un mot, moins qu'il fait de sens, tu sais. Je sais pas si j'ai fait ça juste de te répéter un mot, genre,
ouais,
plein de fois. Puis on dirait qu'il fait de moins en moins de sens, là, puis que c'est même plus un mot. Là.
Exact.
Mais la souveraineté, je pense qu'on l'a trop souvent dit, puis on l'a pas assez fait. On n'est pas.
On l'a pas fait tout court.
Ben non, mais je veux dire, on n'a pas assez fait de pas dans cette direction-là, concrètement. On l'a souvent nommé, mais est-ce qu'on a vraiment été dans l'action? Je pense qu'on a été vraiment très politique par rapport à ça. On est allé chercher notre masse électorale un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Puis au final, le PQ, ben, c'est un vieux parti. Au même titre que le Parti libéral.
Moi, je veux juste dire que François Legault, avant, c'était un péquiste, fait qu'il croyait à l'idée d'indépendance. Moi, je pense qu'il l'est un petit peu encore. Mais ça, c'est mon
ton rêve.
Mon rêve, non, c'est ma frappe de fin d'émission. Parce qu'il est déjà 54 et on doit déjà conclure notre émission d'aujourd'hui.
Mais merci d'avoir été à l'écoute encore une fois.
Ça fait plaisir.
Puis on se revoit la semaine prochaine avec un sujet mystère. On n'a pas encore tout à fait canné le tout, donc à vous surprendre la semaine prochaine.
Exact. Un sujet d'aujourd'hui qui aurait pu durer 3 émissions de long. Peut-être qu'on va revenir avec le sujet dans quelques semaines sous un angle différent. Mais visiblement, là, c'était assez intéressant aujourd'hui. Donc, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Dans le fossé.